Je fis dire à Monsieur Vigne, l'ami qui devait m'accompagner à Malte, que je n'avais pu résister à faire une courte excursion à Rome et que je serais positivement de retour à Naples pour en repartir le 20 janvier. J'eus tort de m'engager, car c'est Dieu qui dispose. Et à cette date du 20 janvier, devait marquer autrement dans ma vie. Je quittai Naples le 5 et j'arrivai à Rome le 6, jour des rois. Mon compagnon de voyage était un Anglais nommé Marshall, dont la conversation originale m'amusa beaucoup en chemin. Rome ne me fit point au premier abord l'impression que j'espérais. J'avais d'ailleurs si peu de jours à donner à cette excursion improvisée que je me hâtais de dévorer en quelque sorte toutes les ruines anciennes et modernes que la ville offre à l'avidité d'un touriste. Je les entassai pêle-mêle dans mon imagination et sur mon journal. Je visitai avec une monotone admiration les galeries, les cirques, les églises, les catacombes, les innombrables magnificences de Rome. J'étais accompagné le plus souvent de mon Anglais et d'un valet de place. Je ne sais à quelle religion ils appartenaient, car ni l'un ni l'autre ne se déclarèrent chrétiens dans les églises, et si je ne me trompe, je m'y conduisais avec plus de respect que les deux autres. Le 8 janvier, au milieu de mes courses, j'entends une voix qui m'appelle dans la rue. C'était un ami d'enfance, Gustave de Bussière. J'étais heureux de cette rencontre, car mon isolement me pesait. Nous allâmes dîner chez le père de mon ami, et dans cette douce société, j'éprouvai quelque chose de cette joie qu'on ressent sur une terre étrangère en retrouvant les vivants souvenirs du pays natal. Quand j'entrai dans le salon, M. Théodore de Bussière, le fils aîné de cette honorable famille, le quittait. Je ne connaissais point personnellement le baron Théodore, mais je savais qu'il était l'ami de mon frère, son homonyme. Je savais qu'il avait abandonné le protestantisme pour se faire catholique. C'en était assez pour m'inspirer une profonde antipathie. Il me semblait qu'il éprouvait à mon égard le même sentiment. Cependant, comme M. Théodore de Bussière s'était fait connaître par ses voyages en Orient et en Sicile, qu'il a publiés, j'étais bien aise, avant d'entreprendre les mêmes courses, de lui demander quelques indications. Et soit par ce motif, soit par simple politesse, je lui exprimai mon intention de lui faire ma visite. Il me fit une réponse de bon goût et ajouta qu'il venait de recevoir des lettres de l'abbé Ratisbonne et qu'il m'indiquerait la nouvelle adresse de mon frère. « Je la recevrai volontiers, lui dis-je, quoique je n'en use point. » Nous en demeurâmes là, et en me séparant de lui, je murmurai en moi-même de la nécessité où je m'étais engagé de faire une visite inutile et de perdre un temps dont j'étais avare. Je continuai à courir dans Rome tout le long du jour, sauf 2 heures que je passais le matin avec Gustave et le repos que je prenais le soir au théâtre ou en soirée. Mes entretiens avec Gustave étaient animés, car entre 2 camarades de pension, les moindres souvenirs fournissent d'intéressables sujets de rire et de causerie. Mais il était zélé protestant et enthousiaste, comme le sont les piétistes d'Alsace. Il me vantait la supériorité de sa secte sur toutes les autres sectes chrétiennes et cherchait à me convertir, ce qui m'amusait beaucoup, car je croyais que les catholiques seuls avaient la manie du prosélytisme. Je ripostais ordinairement par des plaisanteries. Mais une fois pour le consoler de ses vaines tentatives, je lui promis que si j'avais l'envie de me convertir, je me ferais piétiste. Je lui en donnai l'assurance et à son tour, il me fit une promesse, celle de venir assister aux fêtes de mon mariage au mois d'août. Ces instances pour me retenir à Rome furent inutiles. D'autres amis, messieurs Edmond Houman et Alfred Lotzek, s'étaient joints à lui pour me déterminer à passer le carnaval à Rome. Mais je ne pus m'y décider. Je craignais de déplaire à ma fiancée et M. Vigne m'attendait à Naples d'où nous devions partir le 20 janvier. Je mis donc à profit les dernières heures de mon séjour à Rome pour achever mes courses. Je me rendis au Capitole, visiter l'église d'Araceli. L'aspect imposant de cette église, les chants solennels qui retentissaient dans sa vaste enceinte et les souvenirs historiques éveillés en moi par le sol même que je foulais aux pieds, toutes ces choses firent sur moi une impression profonde. J'étais émue, pénétrée, transportée, et mon valet de place, s'apercevant de mon trouble, me dit en me regardant froidement que plus d'une fois, il avait remarqué cette émotion dans les étrangers qui visitent Araceli. En descendant du Capitole, mon cicérone me fit traverser le ghetto, quartier juif. Là, je ressentis une émotion toute différente. C'était de la pitié et de l'indignation. « Quoi ?» me disais-je à la vue de ce spectacle de misère. « Est-ce donc là cette charité de Rome qu'on proclame si haut ?» Je frissonnais d'horreur et je me demandais si, pour avoir tué un seul homme, il y a 18 siècles, un peuple tout entier méritait un traitement si barbare et des préventions si interminables. Hélas, je ne connaissais pas alors ce seul homme. Et j'ignorais le cri sanguinaire que ce peuple avait poussé, cri que je n'ose répéter ici et que je ne veux pas redire. J'aime mieux me rappeler cet autre cri exhalé sur la croix. Pardonnez-leur, ô mon Dieu, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je rendis compte à ma famille de ce que j'avais vu et ressenti. Je me souviens d'avoir écrit que j'aimais mieux être parmi les opprimés que dans le camp des oppresseurs. Je retournai au Capitole, où l'on se donnait beaucoup de mouvements à l'Araceli pour une cérémonie du lendemain. Je manquis du but de tant de préparatifs. On me répondit qu'on disposait la cérémonie du baptême de deux juifs, messieurs Constantini et d'Ancône. Je ne saurais exprimer l'indignation qui me saisit à ces paroles. Et quand mon guide me demanda si je voulais y assister, « Moi » m'écriai-je, « moi ? Assister à de pareilles infamies ? Non, non, je ne pourrais m'empêcher de me précipiter sur les baptisants et sur les baptisés. » Je dois dire, sans crainte d'exagérer, que jamais de ma vie je n'avais été plus aigri contre le christianisme que depuis la vue du ghetto. Je ne tarissais point en moquerie et en blasphème. Cependant, j'avais des visites de congé à faire et celle du baron de Bussière me revenait toujours à l'esprit comme une malencontreuse obligation que je m'étais gratuitement imposée. Très heureusement, je n'avais pas demandé son adresse et cette circonstance me paraissait déterminante. J'étais enchantée d'avoir une excuse pour ne point effectuer ma promesse. C'était le 15, et j'allais retenir ma place aux voitures de Naples. Mon départ est arrêté pour le 17 à 3 heures du matin. Il me restait 2 jours. Je les employais à de nouvelles courses. Mais en sortant d'un magasin de librairie où j'avais vu quelques ouvrages sur Constantinople, je rencontre au Corso un domestique de Monsieur de Bussière père. Il me salue et m'aborde. Je lui demande l'adresse de Monsieur Théodore de Bussière. Il me répond avec l'accent alsacien « Piazza Nicosia, numéro 38 ». Il me fallut donc, bon gré mal gré, faire cette visite. Et cependant, je résistais 20 fois encore. Je me décidai en traçant un PPC sur ma carte. Je cherchais cette place Nicosia et après bien des décours et circuits, j'arrive au numéro 38. C'était précisément la porte à côté du bureau des diligences où j'avais pris ma place le même jour. J'avais fait bien du chemin pour arriver au point d'où j'étais parti. Itinéraire de plus d'une existence humaine. Mais du même point où je me retrouvais alors, j'allais repartir encore une fois pour faire un tout autre chemin. Mon entrée chez M. de Bussière me causa de l'humeur, car le domestique, au lieu de prendre ma carte que je tenais en main, m'annonça et m'introduisit au salon. Je déguisai ma contrariété, tant bien que mal, sous les formes du sourire, et j'allai m'asseoir auprès de Mme la baronne de Bussière, qui se trouvait entourée de ses deux petites filles, gracieuses et douces, comme les anges de Raphaël. La conversation, d'abord vague et légère, ne tarda point à se colorer de toute la passion avec laquelle je racontais mes impressions de Rome. Je regardais le baron de Bussière comme un dévot, dans le sens malveillant qu'on donne à ce terme. Et j'étais fort aise d'avoir l'occasion de le tympaniser à propos de l'état des Juifs romains. Cela me soulageait. Mais ces griefs placèrent la conversation sur le terrain religieux. M. de Bussière me parla des grandeurs du catholicisme. Je répondis par des ironies et des imputations que j'avais lues ou entendues si souvent. Encore imposais-je un frein à ma verve impie par respect pour Mme de Bussière et pour la foi des jeunes enfants qui jouaient à côté de nous. « Enfin, me dit M. de Bussière, puisque vous détestez la superstition et que vous professez des doctrines si libérales, puisque vous êtes un esprit fort, si éclairé, auriez-vous le courage de vous soumettre à une épreuve bien innocente ? Quelle épreuve ? Ce serait de porter sur vous un objet que je vais vous donner. Voici, c'est une médaille de la Sainte Vierge. Cela vous paraît bien ridicule, n'est-ce pas ? Mais quant à moi, j'attache une grande valeur à cette médaille. » La proposition, je l'avoue, m'étonna par sa puérile singularité. Je ne m'attendais pas à cette chute. Mon premier mouvement était de rire en haussant les épaules. Mais la pensée me vint que cette scène fournirait un délicieux chapitre à mes impressions de voyage et je consentis à prendre la médaille comme une pièce de conviction que j'offrirais à ma fiancée. Aussitôt dit, aussitôt fait. On me passe la médaille au cou, non sans peine, car le nœud était trop court et le cordon ne passait pas. Enfin, à force de tirer, j'avais la médaille sur ma poitrine et je m'écriai avec un éclat de rire. « Ah, me voilà catholique, apostolique et romain !» C'était le démon qui prophétisait par ma bouche. Monsieur de Bussière triomphait naïvement de sa victoire et voulut en remporter tous les avantages. « Maintenant, me dit-il, il faut compléter l'épreuve. Il s'agit de réciter matin et soir le Mémorare, prière très courte et très efficace, que Saint Bernard adressa à la Vierge Marie. « Qu'est-ce que votre Mémorare ? » m'écriai-je. « Laissons ces sottises !» Car en ce moment, je sentais toute mon animosité se renouveler en moi. Le nom de Saint Bernard me rappelait mon frère qui avait écrit l'histoire de ce saint, ouvrage que je n'avais jamais voulu lire. Et ce souvenir réveillait à son tour tous mes ressentiments contre le prosélytisme et le jésuitisme et ceux que j'appelais tartuffes et apostats. Je priai donc M. de Bussière d'en rester là et tout en me moquant de lui, je regrettais de n'avoir pas moi-même une prière hébraïque à lui offrir pour que la partie fût égale. Mais je n'en avais point et je n'en connaissais point. Cependant, mon interlocuteur insista. Il me dit qu'en refusant de réciter cette courte prière, je rendais l'épreuve nulle, et que je prouvais par cela même la réalité de l'obstination volontaire qu'on reproche aux Juifs. Je ne voulus point attacher trop d'importance à la chose, et je dis « Soit, je vous promets de réciter cette prière, si elle ne me fait pas de bien, du moins ne me fera-t-elle pas de mal ?» Et M. de Bussière alla la chercher en m'invitant à la copier. J'y consentis à la condition, lui répondis-je, que je vous remettrai ma copie et garderai votre original. Ma pensée était d'enrichir mes notes de cette nouvelle pièce justificative. Nous étions donc parfaitement satisfaits l'un et l'autre. Notre causerie, en définitive, m'avait paru bizarre et elle m'amusa. Nous nous séparâmes et j'allais passer la soirée au spectacle où j'oubliais et la médaille et le mémorare. Mais en rentrant chez moi, je trouvai un billet de Monsieur de Bussière qui était venu rendre ma visite et m'invitait à le revoir avant mon départ. J'avais à lui restituer son mémorare et devant partir le lendemain, je fis mes malles et mes préparatifs, puis je me mis à copier la prière qui était conçue en ses propres termes. Je cite « Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais ouï dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre secours et demandé votre suffrage, ait été abandonné. Plein d'une pareille confiance, je viens, ô Vierge des Vierges, me jeter entre vos bras, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne dédaignez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. » Fin de citation. J'avais copié machinalement ces paroles de Saint Bernard sans presque aucune attention. J'étais fatiguée, l'heure était avancée et j'avais besoin de prendre du repos. Le lendemain, 16 janvier, je fis signer mon passeport et achevai les dispositions du départ. Mais chemin faisant, je redisais sans cesse les paroles du mémorare. Comment donc, ô mon Dieu, ces paroles s'étaient-elles si vivement, si intimement emparées de mon esprit? Je ne pouvais m'en défendre, elles me revenaient sans cesse. Je les répétais continuellement comme ces airs de musique qui vous poursuivent et vous impatientent et qu'on fredonne malgré soi quelque effort qu'on fasse. Vers 11 heures, je me rendis chez M. de Bussière pour lui rapporter son inextricable prière. Je lui parlai de mon voyage d'Orient et il me fournit d'excellents renseignements. « Mais, s'écria-t-il tout à coup, il est étrange que vous quittiez Rome dans un moment où tout le monde vient assister aux pompes de Saint-Pierre. Peut-être ne reviendrez-vous jamais et vous regretterez d'avoir manqué une occasion que tant d'autres viennent chercher avec une si avide curiosité. » Je lui répondis que j'avais pris et payé ma place, que déjà j'en avais donné avis à ma famille, que des lettres m'attendaient à Palerme, qu'enfin il était trop tard pour changer mes dispositions et que décidément je partirais. Ce colloque fut interrompu par l'arrivée du facteur qui apportait à M. de Bussière une lettre de l'abbé de Ratisbonne. Il m'en donna connaissance. Je la lus, mais sans aucun intérêt, car il n'était question dans cette lettre que d'un ouvrage religieux que M. de Bussière faisait imprimer à Paris. Mon frère ignorait d'ailleurs que je fusse à Rome. Cet épisode inattendu devait abréger ma visite, car je fuyais même le souvenir de mon frère. Cependant, par une influence incompréhensible, je me décidai à prolonger mon séjour à Rome. J'accordai aux instances d'un homme que je connaissais à peine ce que j'avais obstinément refusé à mes amis et à mes camarades les plus intimes. Quelle était donc, ô mon Dieu, cette impulsion irrésistible qui me faisait faire ce que je ne voulais pas? N'était-ce pas la même qui, de Strasbourg, me poussait en Italie, malgré les invitations de Valence et de Paris? La même qui, de Naples, me poussait à Rome, malgré ma détermination d'aller en Sicile? La même qui, à Rome, à l'heure de mon départ, me força de faire la visite qui me répugnait, tandis que je ne trouvais plus le temps de faire aucune de celles que j'aimais? Ô conduite providentielle! Il y a donc une mystérieuse influence qui accompagne l'homme sur la route de la vie. J'avais reçu à ma naissance le nom de Toby avec celui d'Alphonse. J'oubliais mon premier nom, mais l'ange invisible ne l'oublia point. C'était là le véritable ami que le ciel m'avait envoyé, mais je ne le connaissais pas. Hélas, il y a tant de Toby dans le monde qui ne connaissent point ce guide céleste et qui résistent à sa voix. Mon intention n'était pas de passer le carnaval à Rome, mais je voulais voir le pape. Et monsieur de Bussière m'avait assuré que je le verrais au premier jour à Saint-Pierre. Nous allâmes faire quelques courses ensemble. Nos conversations avaient pour objet tout ce qui frappait nos regards. Tantôt un monument, tantôt un tableau, tantôt les mœurs du pays. Et à ces divers sujets se mêlèrent toujours les questions religieuses. Monsieur de Bussière les amenait si naïvement, y insistait avec une ardeur si vive que plus d'une fois dans le secret de ma pensée, je me disais que si quelque chose pouvait éloigner un homme de la religion, c'était l'insistance même qu'on mettait à le convertir. Ma gaieté naturelle me portait à rire des choses les plus graves, et aux étincelles de ma plaisanterie se joignait le feu infernal des blasphèmes auxquels je n'ose plus penser aujourd'hui, tellement j'en suis effrayée. Et cependant, monsieur de Bussière, tout en m'exprimant sa douleur, demeurait calme et indulgent. Il me dit même une fois, « Malgré vos emportements, j'ai la conviction qu'un jour, vous serez chrétien. Car il y a en vous un fond de droiture qui me rassure et me persuade que vous serez éclairé. Dû pour cela, le Seigneur vous envoyer un ange du ciel. » « À la bonne heure, lui répondis-je, car autrement la chose serait difficile. » En passant devant la Scala Santa, monsieur de Bussière se prit d'enthousiasme. Il se leva dans sa voiture et se découvrant la tête, il s'écria avec feu « Salut, saint escalier, voilà un pécheur qui vous montre un jour à genoux. » Exprimer ce que prodigie sur moi ce mouvement inattendu, cet honneur extraordinaire rendu à l'escalier serait chose impossible. J'en riais comme d'une action tout à fait insensée. Et quand plus tard nous traversâmes la délicieuse Villa Volkonski, dont les jardins éternellement fleuris sont entrecoupés par les aqueducs de Néron, j'élevai la voix à mon tour et je m'écriai en parodiant la première exclamation « Salut, vraie merveille de Dieu, c'est devant vous qu'il faut se prosterner et non pas devant un escalier. » Ces promenades en voiture se renouvelèrent les deux jours suivants et durèrent une ou deux heures. Le mercredi 19, je vis encore monsieur de Bussière, mais il semblait triste et abattu. Je me retirai par discrétion sans lui demander la cause de son chagrin. Je ne l'appris que le lendemain à midi dans l'église Saint-André des Frères. Je devais partir le 22 car j'avais de nouveau retenu ma place pour Naples. Les préoccupations de monsieur de Bussière avaient diminué son ardeur prosélytiste et je pensais qu'il avait oublié sa médaille miraculeuse tandis que moi, je murmurais toujours avec une inconcevable impatience l'invocation perpétuelle de saint Bernard. Cependant, au milieu de la nuit du 19 au 20, je me réveillai en sursaut. Je voyais fixe devant moi une grande croix noire d'une forme particulière et sans Christ. Je fis des efforts pour chasser cette image, mais je ne pouvais l'éviter et je la retrouvais toujours devant moi de quelque côté que je me tournasse. Je ne pourrais dire combien de temps dura cette lutte. Je me rendormis et le lendemain à mon réveil, je n'y pensais plus. J'avais à écrire plusieurs lettres et je me rappelle que l'une d'elles adressée à la jeune sœur de ma fiancée se terminait par ces mots « Que Dieu vous garde. » Depuis, j'ai reçu une lettre de ma fiancée, sous la même date du 20 janvier, et par une singulière coïncidence, cette lettre finissait par les mêmes mots « Que Dieu vous garde. » Ce jour-là était en effet sous la garde de Dieu. Toutefois, si quelqu'un m'avait dit dans la matinée de ce jour « Tu t'es levé juif, et tu te coucheras chrétien. » Si quelqu'un m'avait dit cela, je l'aurais regardé comme le plus fou des hommes. Le jeudi 20 janvier, après avoir déjeuné à l'hôtel et porté moi-même mes lettres à la poste, j'allais chez mon ami Gustave, le piétiste, qui était revenu de la chasse, excursion qu'il avait éloignée pendant quelques jours. Il était fort étonné de me retrouver à Rome. Je lui en expliquai le motif. C'était l'envie de voir le pape. « Mais je partirai sans le voir, lui dis-je, car il n'a pas assisté aux cérémonies de la chaire de Saint-Pierre, où l'on m'avait fait espérer qu'il se trouverait. » Gustave me consola ironiquement en me parlant d'une autre cérémonie tout à fait curieuse qui devait avoir lieu, je crois, à Sainte-Marie-Majeure. Il s'agissait de la bénédiction des animaux. Et sur cela, assaut de calembours et de quolibets tels qu'on peut se les figurer entre un juif et un protestant. Nous nous séparâmes vers 11 heures, après nous être donné rendez-vous au lendemain, car nous devions aller examiner ensemble un tableau qu'avait fait notre compatriote, le baron de Lotzbeck. Je me rendis dans un café, sur la place d'Espagne, pour y parcourir les journaux, et je m'y trouvai à peine quand M. Edmond Houmann, le fils du ministre des Finances, vint se placer à côté de moi et nous causâmes très joyeusement sur Paris, les arts et la politique. Bientôt un autre m'aborde, c'était un protestant, M. Alfred de Lotzbeck, avec lequel j'eus une conversation plus futile encore. Nous parlâmes de chasse, de plaisir, de réjouissance du carnaval, de la soirée brillante qu'avait donnée la veille le duc de Torlonia. Les fêtes de mon mariage ne pouvaient être oubliées. J'y invité M. de Lotzbeck, qui me promit positivement d'y assister. Si, en ce moment, car il était midi, un troisième interlocuteur s'était approché de moi et m'avait dit « Alphonse, dans un quart d'heure, tu adoreras Jésus-Christ, ton Dieu et ton Sauveur, et tu seras prosterné dans une pauvre église, et tu te frapperas la poitrine au pied d'un prêtre, dans un couvent de jésuites où tu passeras le carnaval pour te préparer au baptême, prêt à t'immoler pour la foi catholique, et tu renonceras au monde, à ses pompes, à ses plaisirs, à ta fortune, à tes espérances, à ton avenir, et s'il le faut, tu renonceras encore à ta fiancée, à l'affection de ta famille, à l'estime de tes amis, à l'attachement des Juifs, et tu n'aspireras plus qu'à suivre Jésus-Christ et à porter sa croix jusqu'à la mort. » Je dis que si quelque prophète m'avait fait une semblable prédiction, je n'aurais jugé qu'un seul homme plus insensé que lui, c'eût été l'homme qui aurait cru à la possibilité d'une telle folie. Et cependant, c'est cette folie qui fait aujourd'hui ma sagesse et mon bonheur. En sortant du café, je rencontre la voiture de M. Théodore de Bussière. Elle s'arrête et je suis invité à y monter pour une partie de promenade. Le temps était magnifique et j'acceptais avec plaisir. Mais M. de Bussière me demanda la permission de s'arrêter quelques minutes à l'église Saint-André des Frères, qui se trouverait presque à côté de nous pour une commission qu'il avait à remplir. Il me proposa de l'attendre dans la voiture. Je préférais sortir pour voir cette église. On y faisait des préparatifs funéraires et je m'informais du nom du défunt qui devait y recevoir les derniers honneurs. Monsieur de Bussière me répondit: c'est un de mes amis, le comte de La Ferronnays. Sa mort subite, ajouta-t-il, est la cause de cette tristesse que vous avez dû remarquer en moi depuis 2 jours. Je ne connaissais pas Monsieur de La Ferronnays. Je ne l'avais jamais vu et je n'éprouvais d'autre impression que celle d'une peine assez vague que l'on ressent toujours à la nouvelle d'une mort subite. Monsieur de Bussière me quitta pour aller retenir une tribune destinée à la famille du défunt. « Ne vous impatientez pas, me dit-il en montant au cloître, ce sera l'affaire de 2 minutes. L'église de Saint-André est petite, pauvre et déserte. Je crois y avoir été à peu près seule. Aucun objet d'art n'y attirait mon attention. Je promenais machinalement mes regards autour de moi, sans m'arrêter à aucune pensée. Je me souviens seulement d'un chien noir qui sautait et bondissait devant mes pieds. Bientôt ce chien disparut, l'église tout entière disparut, je ne vis plus rien. Ou plutôt, ô mon Dieu, je vis une seule chose. Comment serait-il possible d'en parler ? Oh non, la parole humaine ne doit point essayer d'exprimer ce qui est inexprimable. Toute description, quelque sublime qu'elle puisse être, ne serait qu'une profanation de l'ineffable vérité. J'étais là, prosternée, baignée dans mes larmes, le cœur hors de moi-même, quand Monsieur de Bussière me rappela à la vie. Je ne pouvais répondre à ces questions précipitées. Mais enfin, je saisis la médaille que j'avais laissée sur ma poitrine, je baisai avec effusion l'image de la Vierge rayonnante de grâce. Oh, c'était bien elle. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais si j'étais Alphonse ou un autre. J'éprouvais un si total changement que je me croyais un autre moi-même. Je cherchais à me retrouver et je ne me retrouvais pas. La joie la plus ardente éclata au fond de mon âme. Je ne pus parler, je ne voulais rien révéler. Je sentais en moi quelque chose de solennel et de sacré qui me fit demander un prêtre. On m'y conduisit et ce n'est qu'après en avoir reçu l'ordre positif que je parlais selon qu'il m'était possible, à genoux et le cœur tremblant. Mes premiers mots furent des paroles de reconnaissance pour Monsieur de La Ferronnays et pour l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires. Je savais d'une manière certaine que Monsieur de La Ferronnays avait prié pour moi, mais je ne saurais dire comment je l'ai su, pas plus que je ne pourrais rendre compte des vérités dont j'avais acquis la foi et la connaissance. Tout ce que je puis dire, c'est qu'au moment du geste, le bandeau tomba de mes yeux. Non pas un seul bandeau, mais toute la multitude de bandeaux qui m'avaient enveloppé disparurent successivement et rapidement, comme la neige et la boue et la glace sous l'action d'un brûlant soleil. Je sortais d'un tombeau, d'un abîme de ténèbres, et j'étais vivant, parfaitement vivant. Mais je pleurais. Je voyais au fond de l'abîme les misères extrêmes d'où j'avais été tirée par une miséricorde infinie. Je frissonnais à la vue de toutes mes iniquités et j'étais stupéfait, attendri, écrasé d'admiration et de reconnaissance. Je pensais à mon frère avec une indicible joie. Mais à mes larmes d'amour, se mêlèrent des larmes de pitié. Hélas, tant d'hommes descendent tranquillement dans cet abîme, les yeux fermés par l'orgueil ou l'insouciance. Ils y descendent, ils s'engloutissent tout vivants dans les horribles ténèbres. Et ma famille, ma fiancée, mes pauvres sœurs, ô déchirante anxiété, c'est à vous que je pensais, ô vous que j'aime. C'est à vous que je donnais mes premières prières. Ne lèverez-vous pas les yeux vers le Sauveur du monde, dont le sang a effacé le péché originel ? Oh, que l'empreinte de cette souillure est hideuse ! Elle rend complètement méconnaissable la créature faite à l'image de Dieu. On me demande comment j'ai appris ces vérités, puisqu'il est avéré que jamais je n'ouvris un livre de religion, jamais je ne lus une page de la Bible, et que le dogme du péché originel, totalement oublié ou nié par les Juifs de nos jours, n'avait jamais occupé un instant ma pensée. Je doute même d'en avoir connu le nom. Comment donc suis-je arrivé à cette connaissance? Je ne saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'en entrant à l'église, j'ignorais tout. Qu'en sortant, je voyais clair. Je ne puis expliquer ce changement que par la comparaison d'un homme qu'on réveillerait subitement d'un profond sommeil ou bien par l'analogie d'un aveugle né qui tout à coup verrait le jour. Il voit, mais il ne peut définir la lumière qui l'éclaire et au sein de laquelle il contemple les objets de son admiration. Si on ne peut expliquer la lumière physique, comment pourrait-on expliquer la lumière qui au fond n'est que la vérité elle-même ? Je crois rester dans le vrai en disant que je n'avais nulle science de la lettre, mais que j'entrevoyais le sens et l'esprit des dogmes. Je sentais ces choses plus que je ne les voyais, et je les sentais par les effets inexprimables qu'elles produisirent en moi. Tout se passait au-dedans de moi, et ces impressions mille fois plus rapides que la pensée, mille fois plus profondes que la réflexion, n'avaient pas seulement ému mon âme, mais elles l'avaient comme retournée et dirigée dans un autre sens, vers un autre but et dans une nouvelle vie. Je m'explique mal, mais voulez-vous, monsieur, que je renferme dans des mots étroits et secs des sentiments que le cœur même peut à peine contenir. Quoi qu'il en soit de ce langage inexact et incomplet, le fait positif est que je me trouvais en quelque sorte comme un être nu, comme une table rase. Le monde n'était plus rien pour moi. Les préventions contre le christianisme n'existaient plus. Les préjugés de mon enfance n'avaient plus la moindre trace. L'amour de mon Dieu avait tellement pris la place de tout autre amour que ma fiancée elle-même m'apparaissait sous un nouveau point de vue. Je l'aimais comme on aimerait un objet que Dieu tient entre ses mains, comme un don précieux qui fait aimer encore davantage le donateur. Je répète que je conjurai mon confesseur, le révérend père de Villefort et monsieur de Bussière, de garder un secret inviolable sur ce qui m'était arrivé. Je voulus m'ensevelir au couvent des Trappistes pour ne plus m'occuper que des choses éternelles. Et aussi, je l'avoue, je pensais que dans ma famille et parmi mes amis, on me croirait fou, qu'on me tournerait en ridicule et qu'ainsi, mieux vaudrait échapper entièrement au monde à ses propos et à ses jugements. Cependant, les supérieurs ecclésiastiques me montrèrent que le ridicule, les injures, les faux jugements faisaient partie du calice d'un vrai chrétien. Ils m'engagèrent à boire ce calice et m'avertirent que Jésus-Christ avait annoncé à ses disciples des souffrances, des tourments et des supplices. Ces graves paroles, loin de me décourager, enflammèrent ma joie intérieure. Je me sentais prêt à tout et je sollicitais vivement le baptême. On voulut le retarder. « Mais quoi, m'écriai-je, les Juifs qui entendirent la prédication des apôtres furent immédiatement baptisés, et vous voulez m'ajourner après que j'ai entendu la reine des apôtres ?» Mes émotions, mes désirs véhéments, mes supplications touchèrent les hommes charitables qui m'avaient recueilli, et l'on me fit la promesse, à jamais bienheureuse, du baptême. Je ne pouvais presque pas attendre le jour fixé pour la réalisation de cette promesse, tellement je me voyais difforme devant Dieu. Et cependant, que de bonté, que de charité ne m'a-t-on pas témoigné pendant les jours de ma préparation. J'étais entrée au couvent des pères jésuites pour vivre dans la retraite sous la direction du révérend père de Villefort, qui nourrissait mon âme de tout ce que la parole divine a de plus suave et de plus onctueux. Cet homme de Dieu n'est pas un homme. C'est un cœur. C'est une personnification de la céleste charité. Mais à peine avais-je ouvert les yeux que je découvris autour de moi bien d'autres hommes de ce même genre, dont le monde ne se doute pas. Mon Dieu, que de bonté, que de délicatesse et de grâce dans le cœur de ces vrais chrétiens. Tous les soirs, pendant ma retraite, le vénérable supérieur général des Jésuites venait lui-même jusqu'à moi et versait dans mon âme un baume du ciel. Il me disait quelques mots, et ces mots semblaient s'ouvrir et grandir en moi à mesure que je les écoutais. Et il me remplissait de joie, de lumière et de vie. Ce prêtre, si humble et à la fois si puissant, aurait pu ne point me parler, car sa seule vue produisait en moi l'effet de la parole. Son souvenir aujourd'hui encore suffit pour me rappeler la présence de Dieu et allumer la plus vive reconnaissance. Je n'ai point de terme pour exprimer cette reconnaissance. Il me faudrait un cœur bien autrement vaste et sans bouche pour dire quel amour je ressens pour ces hommes de Dieu. Pour M. Théodore de Bussière, qui a été l'ange de Marie, pour la famille de La Ferronnays, à laquelle je porte une vénération et un attachement au-dessus de toute expression. Le 31 janvier arriva enfin, et ce ne sont plus quelques âmes, mais toute une multitude d'âmes pieuses et charitables qui m'enveloppèrent en quelque sorte de tendresse et de sympathie. Combien je voudrais les connaître et les remercier. Puissent-elles toujours prier pour moi comme je prie pour elles. Ô Rome, quelle grâce j'ai trouvée dans ton sein. La mère de mon Sauveur avait tout disposé d'avance, car elle avait fait venir là un prêtre français pour me parler ma langue maternelle au moment solennel du baptême. C'est M. Dupanloup dont le souvenir se rattachera toute ma vie aux émotions les plus vives que j'ai éprouvées. Heureux ceux qui l'ont entendu, car les échos de cette puissante parole qu'on a répétée plus tard ne rendront jamais l'effet de la parole elle-même. Oh oui, je sentais qu'elle était inspirée par celle-là même qui faisait l'objet du discours. Je ne rapporterai point les choses qui regardent mon baptême, ma confirmation et ma première communion, grâces ineffables que j'ai toutes reçues en ce même jour des mains de Son Excellence le cardinal Patrizzi, vicaire de sa sainteté. J'aurais trop à vous dire si je m'abandonnais à vous rendre mes impressions, si je redisais ce que j'ai vu, entendu et ressenti. Et je rappelais surtout la charité qui m'a été prodiguée. Je nommerai seulement ici l'éminentissime cardinal Mezzo Fanti. Le Seigneur a doté cet illustre personnage du don des langues comme une récompense accordée à un cœur qui se fait tout à nous. Une dernière consolation m'était réservée. Vous vous rappelez quel était mon désir de voir le Saint-Père, désir ou plutôt curiosité qui m'avait retenu à Rome. Mais j'étais loin de me douter dans quelles circonstances ce désir se réaliserait. C'est en qualité d'enfant nouveau-né de l'Église que je fus présenté au Père de tous les fidèles. Il me semble que dès mon baptême, j'éprouvais pour le souverain pontife les sentiments de respect et d'amour d'un fils. J'étais donc bien heureux quand on annonça que je serais conduit à cette audience sous les ailes du révérend Père général des Jésuites. Mais pourtant je tremblais, car je n'avais jamais paru devant les grands du monde, et ces grands me paraissaient alors bien petits en comparaison de cette vraie grandeur. J'avoue que toutes les majestés du monde me semblaient concentrées sur celui qui possède ici-bas la puissance de Dieu, sur le pontife qui, par une succession non interrompue, remonte à Saint-Pierre et au grand prêtre Aaron, le successeur de Jésus-Christ lui-même, dont il occupe la chair inébranlable. Je n'oublierai jamais la crainte et les battements de cœur qui m'oppressaient en entrant au Vatican. en traversant tant de vastes cours, tant de salles imposantes qui conduisent au sanctuaire du pontife. Mais toutes ces anxiétés tombèrent et firent place à la surprise et à l'étonnement quand je le vis lui-même, si simple, si humble et si paternel. Ce n'était point un monarque, mais un père, dont la bonté extrême me traitait comme un enfant bien-aimé. Mon Dieu, en sera-t-il ainsi au dernier jour, quand il faudra paraître devant vous pour rendre compte des grâces reçues? On tremble à la pensée des grandeurs de Dieu et l'on redoute sa justice. Mais à la vue de sa miséricorde, la confiance renaîtra sans doute. Et avec la confiance, un amour et une reconnaissance sans bornes. Reconnaissance, telle sera désormais ma loi et ma vie. Je ne puis l'exprimer en paroles, mais je tâcherai de l'exprimer par mes actes. Les lettres de ma famille me rendent toute ma liberté. Cette liberté, je la consacre à Dieu et je la lui offre dès à présent, avec ma vie entière, pour servir l'Église et mes frères sous la protection de Marie.